pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
You. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Oui Arnaud.
Arnaud, c'est vrai. Non, c'est toi.
Voilà.
C'est
bien toi. Bonjour la technique.
Bonjour Arnaud qui aujourd'hui est à la technique. Voilà.
Alors aujourd'hui nous allons poursuivre le
et bonjour les auditeurs.
Les auditrices et les auditeurs.
Les auditrices d'abord, bien entendu. Je suis d'accord avec toi.
Oui, d'accord. Oui. Okay. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre le thème d'une précédente émission dans laquelle nous avons parlé, Jean-Marie, des...
Des naufrageurs, et c'est la saison 2, comme on dit maintenant, la saison.
Oui.
On est en saison, d'accord. Et oui, ce fameux naufrageur sur lequel on a raconté beaucoup de choses, mais... Alors, on a fait déjà une première émission là-dessus pour placer le sujet et montrer un peu comment ça fonctionnait. Et puis là, on va vous dire le reste. On va vous raconter qui furent ces naufrageurs, en tout cas prétendus tels. De la Bretagne, et un peu en bas de la Bretagne aussi.
Oui.
Et puis aussi tout ce qui a fait cette histoire, pour une bonne part légendaire, bien sûr. Et ce qu'il y a aussi, et peut-être surtout, en filigrane, bien sûr, de toutes ces histoires-là. Autrement dit, eh bien, on va essayer d'aller au-delà des simples apparences. Et on peut... Bien sûr, nous sommes sur ces côtes, comme on le dit dans le vocabulaire marin, mal pavées, hein, et donc peu hospitalières. Quand c'est mal pavé, on circule mal. Hein,
Voilà.
Sauf par très beau temps, bien entendu, ça, c'est le pied de faire du bateau par très beau temps. Surtout sur cette pointe pleine ouest de Bretagne, mais aussi tout le long de la côte atlantique, évidemment, comme on l'a laissé entendre, puisqu'on va jusqu'à l'embouchure de la Gironde, hein, quand même.
Oui.
Après c'est que du sable, hein, c'est que du sable. Ouais. Jusqu'à Biarritz, c'est que du sable. Jusqu'à Saint-Jean-de-Luz. Surtout sur des côtes commerciales en pleine expansion au XVIIIe siècle, les côtes du Cap Sizun constituent un véritable piège pour les nombreux vaisseaux marchands qui remontaient évidemment du sud de l'Europe vers les havres, les havres nordiques. Hein, voilà.
Oui.
Les statistiques des archives de l'amirauté de Cornouailles révèlent en effet que les 4/5 des navires naufragés se dirigeaient ainsi du sud vers le nord. Les 4/5 quand même, c'est énorme. Hein. Abordant les atterrages, puisque c'est comme ça qu'on dit, de la péninsule armoricaine, donc la Bretagne, évidemment. Je crois que tu as du sang breton.
Oui.
Tu as du sang breton.
Oui,
hein.
Oui,
tu vas nous le démontrer bientôt, là.
Côte d'Armor, exactement.
Ah, Côte d'Armor. Oh là là, on fait pas plus breton, quoi. Ouais. Alors, les bateaux naviguent à vue avec les côtes, hein,
ouais.
Tentent de gagner le large pour doubler la pointe de Penmark. Mais lourdement chargés et ils sont peu manœuvrants, évidemment, ces bateaux. Ils sont trop souvent drossés sur les falaises du Cap Sizun. Par la puissance des vents d'ouest, évidemment, dominant dans ces parages, et des courants traîtres, évidemment, qui balayent la fameuse baie d'Audierne.
Eh oui.
Oui.
Alors, ça s'appelle « Côte oubliée de Dieu, mais bénie des tempêtes
»,
il était dit à cette époque-là.
Ah oui, c'est ça.
Eh oui. Alors, les courants violents du Raz et les écueils de la terrible chaussée de Saint achève de faire de ces parages eh bien, le cauchemar redouté des marins, hein, et puis de leurs armateurs aussi. Hein.
Oui.
Alors, de nombreux dictons illustrent d'ailleurs la terreur qu'inspiraient aux marins les plus aguerris ces falaises, ces récifs et ces courants impressionnants. Biscoas nedre menas den arras nen devis an pe gloas.
Oh là là, terrible.
Qui passe le ras sans douleur ne passera pas du moins sans peur.
Eh oui, ça le dit bien. Oui, oui.
Voilà.
Oui, oui. Mais tu l'as bien dit en breton quand même. Hein, c'est bien. Alors, après, qu'est-ce que tu veux
dire ? Alors, de plus, les cartes marines dont disposent les navigateurs, hein, ben, à l'époque, elles n'ont pas la précision des documents modernes.
C'est sûr.
Et les instruments de navigation, ben, ils ne sont pas non plus aussi sophistiqués que maintenant. Hein.
Non.
Et alors, par les sombres nuits d'hiver, les phares de légende qui parsèment aujourd'hui eh bien, le littoral n'éclairent pas encore l'immensité liquide. Hein. Alors, cramponné à sa barre, dans l'obscurité menaçante et le fracas des éléments déchaînés, le seul recours du pilote, eh bien, c'est alors de s'en remettre à Dieu et à tous les saints protecteurs du panthéon breton.
Ah ouais, mais
il y en a des saints en Bretagne.
Ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai que les Bretons, ils ont des jolis. Mais... Ah non, c'est pas ça. Non,
c'est pas les mêmes.
Non, excuse-moi.
Alors, t'égare pas.
Ah, non, je m'égare.
Sinon, tu vas tomber sur des récifs aussi.
Oui, il y a des... C'est parsemé de...
Voilà, d'écueils.
Mais quand il y a des saints, c'est pas mal pavé souvent. Enfin, bon, passons.
Alors,
pour les habitants de ces parages, il existait une tradition, comme un droit naturel, aller au Brie.
Ouais.
Alors ça n'a rien à voir le fromage, c'est juste, c'est brisé avec un S. Hein, voilà.
Voilà.
Une activité collective, mais souvent dans l'ivresse et la violence. Et ça, on l'a un petit peu raconté la dernière fois. Bien sûr, oui. Il arrive aux riverains miséreux d'arpenter l'estran. L'estran, c'est la truc où les vagues s'étalent. Hein, ouais. Mmh. En solitaire, la partie où les vagues s'étalent et puis reviennent, hein, l'estran. À la recherche de quelque objet oublié d'un récent pillage. Ou venu à la côte depuis le large suite à un naufrage en haute mer, par exemple, ça arrivait aussi, ou à une attaque de corsaires aussi, hein. Des fois il y avait des choses qui flottaient et qui arrivaient à la côte. Mais le pillage d'épaves se caractérise surtout par un déplacement massif de toute la population riveraine sur des kilomètres et des kilomètres, hein, sur le théâtre du naufrage, bientôt renforcé par les paroisses voisines, comme voilà, et même de plusieurs lieux à la ronde, hein. ça allait loin.
Eh oui.
Alors on va au Brie, en famille, hommes, femmes, enfants, confondus dans le même élan, fébrile évidemment, d'essayer de... Parce que ces gens-là, on le répète encore, sont pauvres, sont très pauvres. Mm-hmm. Donc tout ce qu'ils peuvent récupérer, ben, c'est toujours ça de prix. Hein. Mm-hmm. Les archives de l'amirauté de Cornouailles, dont on a parlé tout à l'heure, font état de la présence de centaines, voire de milliers de pilleurs sur le site de certains naufrages.
Incroyable.
À Plouinec, Plogoff ou Saint, hein, par exemple, hein, là, j'ai pas un aussi bon accent que toi. Ici, sur ces rivages des tempêtes, les noms de navires ainsi sacrifiés sur l'autel de la misère, évidemment, capistes, capistes, c'est les gens qui habitent dans les caps, hein,
oui,
hantent encore la mémoire collective. Par exemple, Parker, la Catherine, le don de Dieu, le pauvre, Suzanne, hein, ça me fait penser à la chanson de Leonard Cohen, ça. Bon, alors, il faut s'imaginer ces scènes pleines de violence, de cris et d'invectives sous les embruns glacés des grèves, parce que quand même, ça se passait la plupart du temps l'hiver, donc il faisait froid, ouais, dans le vacarme des vagues qui agitent encore l'épave de soubresauts de l'agonie, des soubresauts de l'agonie. Il faut faire vite, alors afin d'avoir la meilleure part, évidemment, de se prendre des meilleurs morceaux, et emporter le maximum avant l'arrivée des officiers de l'amirauté. Alors, comme on l'avait dit, les gens de l'amirauté étaient avertis, et puis ils venaient pour prendre tout ça, au nom, évidemment, des possédants, alors que les miséreux, les pauvres, ils n'avaient rien. Bon, alors ces officiers d'amirauté qui étaient retardés par le mauvais temps, le mauvais état des chemins, qui isolent si bien le Cap Sizun, à la mauvaise saison, évidemment, la mauvaise saison. Oh, oui. Les vagues. Elles déferlent. Oui.
Alors la violence se déchaîne contre les marins, qu'ils soient ennemis ou amis,
oui,
qui voudraient protéger leur navire et sa cargaison.
Oui.
Et cette même violence s'exerce aussi contre les représentants locaux de l'amirauté, hein,
oui,
voire contre leur famille, et même contre les hommes désignés pour monter la garde sur la dune pendant la nuit,
oui,
autour des marchandises qui ont été sauvées.
Sauvé.
Alors cette violence, elle est décuplée par la consommation systématique, immédiate et sans modération des barriques que transportent les navires.
Oui, oui.
C'est l'orgie collective, la fête sauvage. Quoi,
ils sont donnés à cœur, je vois.
Alors on boit sur le site du naufrage, dans son chapeau, son sabot, et à même l'effus parfois. Hein.
Oui.
Alors, plus d'un pilleur, cuvant son eau de vie dans les fossés glacés de l'hiver, d'ailleurs, il trouvera la mort.
Et puis on a parlé de cette femme qui a failli se noyer dans un toulon.
Voilà, Pour les populations miséreuses du Cap Sizun, eh bien, l'apport régulier des marchandises récupérées lors des pillages, ça représente bien sûr un légitime correctif à leur sort trop injuste, quoi, hein,
et oui,
miséreux.
Et oui, ces pauvres gens quand même essayaient de récupérer quelques bricoles. Certaines cargaisons sont immédiatement d'ailleurs consommées dans le voisinage. Poissons séchés, le beurre par exemple, les céréales, puis bien sûr les vins et les eaux de vie, évidemment, ça on l'a évoqué. Hein. Alors d'autres marchandises tombent à pic pour améliorer la vie de ces paysans ou de ces marins démunis, et souvent même au chômage d'ailleurs. Hein. La laine, des toiles, des tissus, mais aussi toutes les matières premières qui composent le navire, évidemment, ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer. Des espars, c'est les mâts, les baumes, ce qui constitue le gréement, des morceaux de la coque d'ailleurs, les mâts, les ferrures aussi, rien n'est laissé sur le site et tout est transformé localement et récupéré bien sûr. Lorsque la manne est trop abondante pour la consommation des riverains, le surplus est troqué dans les auberges audiernaises, d'Audierne. Sur les foires de Pont-Croix, dans les villages de la Cornouaille et même bien plus loin aussi. Il en va de même pour les bijoux et les objets précieux. Alors là, évidemment, je ne te raconte pas. Leur troc permet des semaines de subsistance pour ces familles très démunies, bien sûr. Hein. Le pillage terminé, le naufrage constitue parallèlement encore un complément de revenus pour les populations locales, des plus nécessiteuses, bien sûr, jusqu'aux plus aisés. Hein. Les plus gros rapports allant, bien sûr, à celles-ci, aubergistes et loueurs d'hiver, qui, eux, comme on l'a dit, profitaient des gens de l'amirauté qui venaient là, puisque les routes étaient très mauvaises, étaient obligés de séjourner là. Et évidemment, les aubergistes et les loueurs de chevaux ou de charrettes, et évidemment, faisaient leur beurre là-dessus. Le moindre travail lié à l'échouement est dûment rémunéré. Les riverains requis par l'amirauté pour remonter au sec, ceux qui subsistent de la cargaison ou de l'impave, l'aubergiste qui accueille l'équipage rescapé, souvent... l'express chargé de porter la nouvelle du naufrage à Quimper, les maîtres de barque qui louent leur chaloupe, les paysans, les chevaux, les charrettes, les interprètes aussi, souvent. Et jusqu'au goûteur, aussi appelé gourmet.
Ah.
Un gourmet, voilà.
C'est de là que vient l'appellation gourmet.
Peut-être oui, je ne sais peut-être. Pas. Ah oui. Chargé, mais gourmet, c'est le goût. Sur...
Oui, oui.
Chargé
oui.
d'expertiser les vins après leur séjour dans l'eau de mer. Ils goûtaient les vins. Hein. Les tonneliers. Quelques-uns les goûtaient plusieurs fois, d'ailleurs.
Oui.
Il en fallait des litres avant de savoir s'il était bon. Les tonneliers qui réparent les fûts, les forgerons aussi, les charpentiers. Enfin, bon, bref, tous font leur miel autour de cette épave, évidemment.
Oui. Alors ainsi, au premier pillage sur les lieux mêmes du naufrage, interdit par les ordonnances de marine...
Hein. De Colbert, dont on a parlé.
Ouais, ouais, ouais. Oui. Alors succédé un second, officiel, celui-là, pour le plus grand profit des représentants de l'amirauté qui touchaient tranquillement leurs émoluments sans avoir enduré le vent glacial sur les grèves.
Hein. Ouais.
Et souvent même, s'il subsistait quelques parties du navire et de sa cargaison après le naufrage, il ne restait aux armateurs que leurs yeux pour pleurer une fois toutes ces dépenses soldées.
Non, 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 non.
Alors, les pillages d'épaves sur les côtes du Cap Sizun au XVIIIe siècle sont attestés. À Audierne, Plouinec, Esquibienne, Plogoff, Clédance, hein. on pillait allègrement sur ce sujet. Pas une seule de ces paroisses ne peut jouer les effarouchés, ni se voiler pudiquement la face en la matière.
Ah, bah, écoutez,
tous les éléments figurent dans des liasses d'archives de l'amirauté de Cornouailles, dates et circonstances détaillées, le nom des navires, le rôle d'équipage, les rôles d'équipage, les recours des armateurs, le déroulement des enquêtes et les châtiments prononcés.
Eh mais ils étaient quand même bien organisés, ouais. Oui. L'administration a toujours été très
pointue. Très organisée, oui, oui.
Mais bon. Alors l'administration, je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, je connais trop bien le sujet. Mais ici encore, les pilleurs du Cap Sizun étaient-ils vraiment ces terribles naufrageurs à l'affût sur la crête de leur falaise? Hein, est-ce que, voilà, la question, est-ce que peut la poser, la question comme ça, est-ce que c'était vraiment ces terribles naufrageurs? Parce que les naufrageurs, c'est ceux qui font naufrager.
Oui.
C'est pas ceux qui profitent du naufrage. Provoquaient-ils volontairement la perte des navires et de leur équipage en difficulté en les attirant sur les récifs? C'était la question des naufrageurs.
Oui.
Allaient-ils jusqu'au crime pour s'emparer des riches cargaisons? C'est ça aussi qu'il faut dire. On a déjà cité les abus. Les abus dans ces choses rapportées par des gens qui n'en savaient rien. Sauf ils ont glosé là-dessus, ils ont fait des romans, sauf d'avoir écouté des racontars. C'est le cas du voyageur, par exemple, Dubuisson Aubenet, en 1636. Et c'est pour beaucoup dans cette sinistre réputation qui campe les habitants de l'île de Sein comme des gens sauvages qui courent sus aux naufrageants. Vivant de leur débris et allumant des feux en leurs îles pour faire naufrage aux passants, le rase. Je le dis dans la façon de le dire de l'époque. Des textes réglementaires anciens, comme le rôle d'Oléron, par exemple, au XIIIe siècle, alors ça c'est beaucoup plus ancien quand même, XIIIe siècle, ou l'ordonnance de marine de Colbert, qui vient bien après, en 1681, semble confirmer ces crimes. En prévoyant la peine capitale, carrément, pour ceux qui allumeront la nuit des feux trompeurs sur les grèves de la mer et dans les lieux périlleux pour y attirer et faire perdre des navires. Et oui, c'était très dur, la loi était très dure à l'époque. Alors vous êtes sur Radio LBGS
avec Jean-Marie.
C'est vrai, je le confirme. Et Arnaud, il le confirme aussi.
Sur 95.4.
Et 104.2, bien entendu, c'est Radio LBGS et c'est dans l'émission
Dessine-moi un bateau.
Et c'est là que ça se passe, on vous parle des naufrageurs. C'est la seconde émission qu'on fait là-dessus. Et la dernière, pour vous donner un complément d'information sur cette partie de l'histoire des côtes bretonnes.
Hein. Oui.
À l'époque révolutionnaire, Jacques Cambry, dans son voyage dans le Finistère, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs, enfonce le clou en situant la trop fameuse scène de la vache promenant son lugubre fanal sur la lande. Et l'historien Michelet, que tout le monde connaît évidemment, on ne présente plus Michelet, suivi de la cohorte des écrivains et des peintres de la période romantique, achèvera d'asseoir ce qu'il faut sans doute surtout considérer comme, il faut bien le dire, en grande partie un mythe. Mmh. Alors en effet, contrairement au pillage d'épaves, jamais historiens et chercheurs n'ont pu produire le moindre document ancien ou moderne pour corroborer ces allégations exagérées. Alors les allégations exagérées, en dehors de ce qu'on a dit à propos des documents administratifs, c'est surtout la légende des naufrageurs, des gens qui font... À ce jour, le dossier naufrageur du Cap Sizun, il est surtout vide, il faut bien le dire. Pour illustrer ça, vu sous l'angle plutôt littéraire, on va déguster un extrait du roman de Pierre Macorlan, À bord de l'étoile matutine. Matutine, oui. C'est joli ça.
Oui.
Faut que j'aille voir dans le dictionnaire ce que ça veut dire ça. Matutine, ouais. Oui.
Alors Pierre Macorlan, en fait, il s'appelle Pierre Dumarchais.
D'accord. Hein,
c'est un écrivain français qui est né le 26 février 1882 à Péronne, qui est mort le 27 juin 70 à Saint-Cyr-sur-Morin. Alors il est auteur d'une œuvre abondante et variée. Il débuta par l'écriture de contes humoristiques et après avoir en vain tenté une carrière dans la peinture. Hein. Après la Première Guerre mondiale, eh ben son inspiration se tourna vers le registre fantastique et le roman d'aventure. Et la dernière partie de sa carrière littéraire fut consacrée à l'écriture de chansons, d'essais et de mémoires.
D'accord.
Et plus que la littérature, eh ben deux passions dominaient alors l'adolescent. Mmh. C'était Aristide Bruand et le rugby à 15. Voilà pour...
On parlait à Loïc.
Ouais, voilà. C'est Pierre Macorlan, hein, qui en fait s'appelle Pierre Dumarchais.
Dumarchais.
Alors revenons à ce qu'il écrit dans son roman « L'étoile matutine ». Hein.
D'accord, allons-y.
Il écrit ceci. « Mon père exerçait la profession de naufrageur.
Ah.
Et c'est lui qui m'enseigna les rudiments de son métier. Nous habitions une maisonnette assez simple, en forme de crabe, à moitié enfouie dans les roches, au bord de la mer, à l'extrême pointe de la Bretagne. Notre métier consistait à recueillir les épaves que la mer venait déposer dans un petit golfe dont nous connaissions les courants. Des journées entières, alors que les vagues s'amoncelaient pour annoncer la tempête nourricière, nous regardions l'horizon avec de grandes lunettes marines. Comme deux araignées au centre de leur toile, nous guettions le navire infortuné que son mauvais destin conduisait vers le récif de Kerguez pour se disloquer dans le gouffre mugissant. Tantôt, un tonnelé de rhum roulé par la vague venait s'échouer sur le sable blanc. C'était encore un canot portant le nom d'un navire anglais, des caisses de biscuits, des vins d'Espagne épais et noirs comme le sang. Notre intérieur, que nulle main de femme n'était venue adoucir depuis la mort de ma mère, s'animait singulièrement les soirs de tempête et de beuverie. Les objets pillés qui le composaient vivaient curieusement pour moi, d'autant plus que mon père, rendu loquace sous l'influence de l'alcool, me contait leur histoire en les désignant un à un avec le tuyau de sa pif. Voilà ce buffet, un beau buffet, on ne ferait plus ça de nos jours. Il vient d'un brick péri sur la côte des Glénans. Ce beau coffre sculpté, ah, mais je l'ai trouvé avec toi l'année dernière, devant l'île aux mouettes. Tu te rappelles le temps qu'il faisait ? La goélette qui nous l'offrit dansait sur l'eau comme un bouchon noir. Ah, quel temps ! La côte n'aime pas les navires qui ne sont pas du pays. Malheur à l'anglais !
Aïe, 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 oui, les anglais.
Et ça, dis-je en désignant un misérable berceau d'osier qui servait de niche à notre chienne Diane. Ça, c'était en 1693. J'ai trouvé l'objet à côté du trou aux crevettes. Encore une goélette qui n'était du pays. Je dois dire que j'ai trouvé le même jour un tonneau de vin sucré. Un soir de tempête, mon père, fortement excité par le rhum qu'il avait bu, se frottait les mains l'une contre l'autre dans un geste familier par quoi il exprimait son contentement. « Ah, quel beau métier, mon fils ! Je n'ai même pas besoin de tendre mes filets. La Providence pourvoit à tout. Elle a soin de ses enfants. J'ai vu à 6 heures un grand 3 mois, 3 mâts avec toutes ses voiles dehors. J'ai idée qu'il a dû serrer de la toile à l'heure qu'il est. Le vent gémissait sur la lande et j'écoutais mon père. Soudain, on frappa à la porte, deux coups décidés. Mon père bondit. C'est la marée-chaussée. Il hésita. Va ouvrir, ordonna-t-il de sa voix calme. Il cacha la bouteille de rhum et, peu rassuré, j'ouvris la porte. Le vent s'engouffra dans la pièce où pénétra brutalement une odeur d'iode, d'algues, de poissons frais et un je ne sais quoi de sucré qui sentait la mort. Alors, un homme vêtu comme un matelot entra avec la mauvaise odeur. Il était grand et sa chair décomposée était celle d'un mort qui a longtemps séjourné dans l'eau, car son ventre extraordinairement gonflé lui donnait une silhouette burlesque et terrifiante. Il referma la porte derrière lui et montra son visage rongé aux gencives dénudées, promena ses yeux morts autour de lui comme quelqu'un qui cherche un objet dont il ne se rappelle plus très bien la place. « Je suis Hans Kork, » dit l'homme d'une voix étonnamment faible, « et je viens chercher mon coffre. Il est marqué au fer rouge et à mon nom. »
Alors, le problème, c'est qui lui avait donné l'adresse
voilà.
pour aller chercher le coffre.
Il avait bien enquêté,
sans doute. Il faut quand même maintenant préciser ce fameux droit de Brie. D'ailleurs, je dois te féliciter pour nous avoir raconté cette histoire de Macorlan. C'était assez...
Merci.
Ça, on s'y croirait. Il faut quand même maintenant préciser ce fameux droit de Brie qu'on a pas mal rencontré sur ce sujet.
Oui.
Pendant l'Ancien Régime, le droit de Brie est appelé aussi droit d'épave. Droit de Lagan, droit de Varec ou de Vrekum était le droit donnant la propriété des épaves et des cargaisons des navires naufragés au seigneur sur les terres duquel l'épave s'échouait.
D'accord.
Et en fait, ce droit de Brie faisait l'objet de négociations, de marchandages et évidemment d'entorses nombreuses. Ainsi, il pouvait être donné par les seigneurs aux militaires ou religieux en échange de l'entretien et du fonctionnement du phare. Fanal placé au sommet d'une tour à feu au Moyen-Âge, au Moyen-Âge. Hein. Dans la plupart des cas, alors les populations qui vivaient dans les conditions misérables ne respectaient pas ce privilège seigneurial et profitaient des naufrages pour aller évidemment piller les épaves. Oula. Là, il a mis le moteur. Ah, là, il a mis le moteur. On n'est plus en 1600 ni même en 1700. Brr, brr, brr. C'est un bon petit diesel de chalutier.
Ça
tourne
bien. Là.
Tourne bien. Ouais. Le droit de Brie existe probablement depuis fort longtemps, évidemment. En France, Louis XI revendique ce droit comme régalien. Alors carrément, lui, le seigneur, dégage de là, c'est régalien.
Ouais.
Régalien, ça veut dire pour le roi, évidemment. Hein.
Oui,
en Bretagne, toutefois, le droit de Brie reste une prérogative ducale. C'était déjà le seigneur placé assez haut.
Le duc.
Voilà, voilà. Condamné en Bretagne par le concile de Nantes en 1127 sous l'impulsion du duc Conan III, il est aboli par Henri II sur les côtes d'Angleterre, du Poitou, de l'île d'Oléron et de Gascogne en 1174 et remplacé, évidemment, par une taxe de jauge.
Ouais.
Tout simplement. Il n'y a pas que maintenant qu'il y en a qui inventent des taxes.
Oui.
Non, non, il n'y a pas que maintenant, rassurez-vous, et ça va durer. Bon, alors, contre le versement... de laquelle les capitaines de navires recevaient des, je cite, « brefs de sauveté, de conduite et de victuailles ». Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire pas grand-chose. Bon. Qui, en cas de sinistre, garantissaient leur personne et leurs biens. Garantissaient à condition qu'ils ne tombent pas entre les mains de n'importe qui, bien sûr. Quand on dit que c'est garanti, c'est un peu comme les assurances quand on dit que c'est garanti. Oui. Alors, sous Louis XIV, ce droit est limité par cette ordonnance colbertiste dont on a amplement cité, de 1681, aux biens non réclamés dans un certain délai. En août 1681, cette ordonnance de la marine supprime le droit de ramasser les épaves et les biens parvenant à la côte, accordés jusque-là aux Ouessantins, hein, les gens d'Ouessant.
Ouais.
Et le 8 octobre 1699, l'amirauté de Brest installe à Ouessant un bureau de greffe et un commis chargé de mettre à disposition du roi les marchandises parvenant à la côte à la suite de naufrages. Donc, régalien,
mis
à disposition du roi. Hein. Alors, les Ouessantins continuèrent malgré tout, évidemment, on le comprend, à récupérer tout ce qui pouvait améliorer leur ordinaire, ce qui paraît quand même assez normal. Mm-hmm. Ils étaient quand même bien moins riches que le roi. Pour éviter la saisie des biens et du navire, il existait un droit de rachat du droit de bris par les brefs de Bretagne. Je dis les brefs de Bretagne, qui étaient des attestations authentifiées par le sceau du duc de Bretagne. Mm-hmm. Voilà. Alors, ces biens récupérés étaient mis en vente dans les ports du duché et dans deux autres ports, d'ailleurs, Bordeaux et La Rochelle.
Ah bon.
Voilà. Alors, c'est en Bretagne, particulièrement dans le pays pagan et le pays Bigouden. Dans le pays pagan, tu sais où c'est, toi, qui es à moitié breton ?
Pays pagan, non, je sais pas. Faut que je regarde, non. Bon, bah, on le dira ça à une prochaine émission.
Pays Bigouden, c'est le genre où les mettaient des bigoudis, non ? Je sais pas. Ah, ou encore les îles.
C'est une grande coiffe, là.
Les... Ah, en forme de cheminée sur la tête.
Voilà, c'est ah, ça. Ouais, il fallait qu'elle baisse la tête pour rentrer dans les cars ou les voitures.
Ah ouais.
Elles étaient coiffées comme
ah,
ça.
Ouais.
Et oui.
À l'époque des cars et des voitures, il n'y en avait pas trop. Hein. Bon, dans les charrettes, quoi.
Voilà.
Alors, encore dans les îles comme à Ouessant, alors le pays Bigouden, donc le pays pagan, le pays Bigouden, ou encore dans les îles comme à Ouessant, bien sûr. Que le droit de bris eut son plus puissant développement, parfois, peut-être, mais c'est douteux, en allant jusqu'à provoquer des naufrages, bon, et ça, évidemment, ça fait partie un peu de la légende, afin de piller les épaves, d'où la réputation, probablement largement imméritée, de naufrageurs de ces populations des côtes. Par exemple, dans la nuit du 22 au 23 janvier 1792 à Plouguerneau, le Neptune, navire marchand anglais, s'échoue et est pillé par une meute de pilleurs d'épaves du pays pagan. Il transportait, entre autres, de la porcelaine de Chine. D'accord. Alors, bah, évidemment, la porcelaine de Chine était assez rare et relativement chère, évidemment. Ce droit reste en usage au XIXe siècle. Jules Michelet, d'ailleurs, a évoqué cette pratique en ces termes, accréditant par la légende des Bretons naufrageurs. C'était en 1832.
Oui, alors Jules Michelet, il évoque de cette façon « La nature est atroce sur la côte bretonne. L'homme est atroce et il semble s'entendre, bien sûr. Dès que la mer leur jette un pauvre vaisseau, ils courent à la côte, hommes, femmes et enfants, ils tombent sur cette curée. N'espérez pas arrêter ces loups. Ils pilleraient tranquillement sous le feu de la gendarmerie. » Encore s'ils attendaient toujours le naufrage, mais on assure qu'ils l'ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache promenant à ses cornes un fanal mouvant a mené le vaisseau sur les écueils. Dieu sait alors quelle scène de nuit on en a vu qui pour arracher une bague au doigt d'une femme qui se noyait lui couper le doigt avec les dents.
Aïe.
Ah, l'homme est dur sur cette côte, fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel ? Ah, la nature ne lui pardonne pas.
Oui, c'est vrai que ces gens étaient durs parce qu'on les faisait vivre à la dure aussi. Il faut bien reconnaître ça, bien sûr. C'est toujours comme ça, quoi. Bon. Alors, Guy de Maupassant a renchéri, lui, évidemment. C'était le romantisme. Hein. Écrivant en 1883, donc 50 ans après ce qu'on vient de lire, faisant allusion à la réputation de naufrageur que possédaient les Bigouden, à l'instar des habitants du pays pagan.
Oui, alors, Guy de Maupassant, il écrit « La plage de Penmark fait peur. C'est bien ici que les naufrageurs devaient attirer les vaisseaux perdus, en attachant aux cornes d'une vache...
Pauvre vache, hein.
Hein, dont la patte était entravée pour qu'elle boita la lanterne trompeuse qui simulait un autre navire. »
Ah là là, c'était des temps très durs. Évidemment, il est bien facile de transformer de pauvres airs des misérables en moins que rien, en gens de sacs et de cordes. Est-ce que les choses ont tellement changé ? Sinon, en apparence, et seulement, et même pas d'ailleurs.
Question. Eh bien, c'est sur ces réflexions que vient de nous dire Jean-Marie, qui sont hautement philosophiques, n'est-ce pas ?
Je te laisse
et que nous nous quittons pour aujourd'hui, amis auditrices et auditeurs.
On espère en tout cas qu'on vous a intéressé, qu'on vous a appris quelque chose sur les naufrageurs, en tout cas, hein, et que vous saurez maintenant peut-être faire un peu la part des choses, pour pas trop condamner ces pauvres misérables qui essayaient uniquement de vivre un peu mieux, quoi.
Voilà, merci de votre écoute, bye bye.
Bye bye, au revoir tout le monde.
Ça nous a pris 3 mois complets pour découvrir quels étaient ses projets. Quand le père nous l'a dit, c'était trop beau. Pour les vacances, nous avions un bateau.
hören Radio Albigest auf 95.4 und 104.2.